Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, édition spéciale.
Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débats, mais aussi d'opinions avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud, comme tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, ce sixième jour de guerre en Ukraine, des bombardements qui s'intensifient dans tout le pays. À Kiev, les chars russes se rapprochent dangereusement. Nous irons aussi à Istres, où 120 chasseurs alpins sont sur le point de décoller direction la Roumanie. Et puis cette guerre pourrait bien faire mal à notre porte-monnaie. Les négociations entre la grande distribution et les industriels de l'alimentation s'achèvent ce soir.
À 12h40, échange avec le porte-parole du chef d'état-major des armées françaises, le colonel Pascal Lanny. Il sera notre invité. À 12h50, la présidentielle. Premier tour dans 40 jours pile. On se demandera si le scrutin est déjà joué.
Et justement, c'est notre question du jour sur RTL.fr. La guerre en Ukraine peut-elle influencer votre vote? Vous dites non à 76%. La météo, c'est avec vous, Louis Bédin. Instructif. Après, ce n'est pas vraiment un sondage. Il faut toujours le préciser,
cette question du jour.
Bonjour Louis Bédin.
Bonjour Amandine.
Bon, le soleil, c'est terminé?
C'est terminé dans beaucoup de régions parce qu'effectivement, les nuages sont revenus par l'ouest au cours de ces dernières heures. Résultat, beaucoup de nuages attendus cet après-midi à l'ouest d'une ligne Bordeaux-Reims à peu près. Là, ça sera très nuageux avec de rares éclaircies et un peu de pluie, notamment entre la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais. Ça circulera, ces petites averses tout au long de l'après-midi. Alors, à l'est de cette limite, donc Bordeaux-Reims, là, ça restera encore très lumineux, très ensoleillé même sur les Alpes ou encore près de la Méditerranée, sauf dans le Languedoc où on aura quelques nuages. Le tout avec un petit peu de mandotant et des températures qui vont baisser un petit peu par rapport à hier, mais ça reste quand même au-dessus des moyennes de saison. 10 à 13 degrés dans la moitié nord, 14 à 17 dans le sud.
Merci Louis, à tout à l'heure.
RTL Midi,
édition spéciale.
Et pour commencer, on vous emmène à Kherson. C'est au sud de l'Ukraine, l'une des villes où l'armée russe a considérablement progressé ces dernières heures. Les 300 000 habitants qui y vivent sont cloîtrés, apeurés, à l'image d'Hussein que Stéphane Genest a pu joindre tout à l'heure pour RTL.
Since morning, we're hearing loud bangs.
Depuis ce matin, j'entends des gros booms. Autour de la ville, il y a des dizaines de chars. Pendant que je vous parle, j'entends le bruit des bombes. C'est effrayant parce que les quatre derniers jours, les bombardements étaient loin. Maintenant, c'est dans la ville. C'est encore plus effrayant parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochaines secondes. La guerre se rapproche, elle est vraiment là. J'ai peur, ça ne fait aucun doute. La ville de Kherson va être prise par les Russes aujourd'hui.
Bonjour Gauthier Delambugard.
Bonjour.
Vous êtes l'un des envoyés spéciaux de RTL en Ukraine. Des témoignages comme celui qu'on vient d'entendre, il y en a ce matin des dizaines. Clairement, l'offensive russe s'est intensifiée ces dernières heures, et ce, dans plusieurs villes d'Ukraine.
Absolument. Dans toutes les grandes villes de l'Est, toutes ces villes sont sous les bombes russes, encerclées par les troupes de Poutine. Les missiles tombent sans cesse dans le centre de Kharkiv, la deuxième ville du pays. Le bâtiment de l'administration régionale a été touché. La façade a explosé et s'est effondrée sur des voitures qui circulaient autour de la place centrale. On nous signale de nombreuses victimes. Des habitants affolés filment les dégâts et postent des vidéos sur les réseaux sociaux. Les Russes encerclent aussi Marioupol, une ville portuaire du sud. De fortes explosions retentissent depuis ce matin. Les images et les bruits de détonation se multiplient sur Twitter. L'électricité est désormais coupée dans toute l'agglomération.
Gauthier, autre image qu'on surveille de près, c'est ce convoi de véhicules russes, un convoi de plus de 60 km qui se rapproche dangereusement de Kiev.
Absolument, un convoi de 64 km, très exactement, des chars, des blindés, de l'artillerie, des camions de transport de troupes russes affluent par le nord-ouest. Les premiers véhicules, la tête du convoi entre désormais dans la banlieue de Kiev, le siège de la capitale est imminent. Les troupes de Poutine veulent prendre cette capitale au plus vite pour faire céder les Ukrainiens, anéantir cette si forte résistance. Les habitants se terrent toujours dans les abris ou tentent de fuir. Selon plusieurs sources, l'ambassadeur de France et ses équipes viennent de prendre la route pour Lviv. Cette ville refuge de l'Ouest, épargnée par les combats. Ce trajet que nous avons fait nous-mêmes il y a deux jours pourrait prendre beaucoup de temps à cause des nombreux checkpoints et de l'affluence sur les routes. Avec cet exode massif de la population, nous avions mis plus de 20 heures pour parcourir 500 km.
La défense de Kiev constitue une priorité, c'est ce que dit ce matin le président ukrainien Zelensky, qui doit s'exprimer d'ailleurs dans les toutes prochaines minutes devant le Parlement européen par visioconférence. Merci à vous Gauthier Delambugard, vous êtes l'un des envoyés spéciaux de RTL en Ukraine.
Et face à ces bombardements qui s'intensifient, le nombre d'Ukrainiens qui fuient le pays ne cesse de progresser.
660 000 d'après les derniers chiffres de l'ONU. Pour vous donner une idée, on était à 500 000 hier. Ceux qui font le choix de rester n'hésitent pas à risquer leur vie, à l'image de cet étudiant que vous avez rencontré, Mourad Jabari, un étudiant devenu patrouilleur.
Il a à peine 20 ans et un visage d'adolescent et pourtant il a le discours d'un combattant prêt à prendre les armes. Mais pour le moment, Danilo, étudiant en sciences politiques et patrouilleur chaque soir dans les rues de sa ville.
On donne un coup de main aux policiers chaque nuit pendant le couvre-feu. Dans la nuit ou sur les checkpoints par exemple. On vérifie les identités, les coffres des voitures. Comme pour l'instant je ne peux pas aller sur le front dans l'Est, c'est le moins que je puisse faire.
Plutôt habitué au cahier, son ordinateur ou sa PlayStation, Danilo s'est vite adapté à la situation, à la guerre. Contrairement à ses compagnons, il n'a pas d'armes, il amène avec lui alors un petit canif.
C'est un travail très important. Dans certaines villes, il y avait des infiltrés, des espions russes. Ils peuvent préparer la guerre ici ou faire des attentats. Donc toute personne suspecte, on l'arrête.
Les soirées étudiantes, les cours à la fac, une vie qui semble bien loin, presque déjà oubliée.
Mourad Jabari, à Lviv, à l'ouest de l'Ukraine, pour RTL. Côté russe, à présent, le ministre de la Défense assure que son pays poursuivra l'offensive jusqu'à ce que les objectifs soient atteints. Ce sont ses mots, une stratégie, une détermination qui est loin de faire l'unanimité sur place, Félix Grasso.
C'est une tragédie, l'effusion de sang doit cesser, estime Mikhail Friedman, cofondateur d'Alpha Bank, dont les parents vivent à Lviv, en Ukraine. La paix est importante, souligne Oleg Deripaska, un autre oligarque qui a fait fortune dans le métal. Des voix issues de l'élite s'élèvent, elles viennent renforcer celles des près de 6500 Russes arrêtés pour avoir manifesté contre la guerre. Une centaine de personnalités du monde de la culture, des arts et du spectacle avaient déjà signé une tribune contre ce conflit durant le week-end. Des journalistes se mobilisent aussi et enfin, une centaine de conseillers municipaux se sont eux aussi élevés contre ce conflit, que ce soit à Moscou, Saint-Pétersbourg ou encore Samara. Des journalistes donnent de la voix, preuve que des clivages apparaissent au sein de la société, des divisions que les sanctions devraient renforcer dans la mesure où elles vont grandement détériorer le quotidien des Russes, qui pour l'instant voient la valeur du rouble s'effondrer et les prix prendre l'ascenseur.
Et Félix Grasso, le correspondant de RTL à Moscou.
Moscou, la bourse restera fermée toute la semaine.
En conséquence des sanctions imposées à la Russie, ce matin, Bruno Le Maire a dit vouloir provoquer l'effondrement de l'économie russe. Depuis quelques jours déjà, plusieurs entreprises commencent à retirer leurs intérêts sur place. Dernière en date, Total Energy. Le groupe français annonce ce matin qu'il n'investira plus dans de nouveaux projets en Russie, Pierre Herbulon.
Oui, et ça fait suite à un coup de pression en règle de Bruno Le Maire ce matin. Le ministre de l'économie estime qu'il y a désormais un problème de principe à travailler avec toute entité proche du pouvoir russe. Total détient un peu plus de 19% du capital de Novatek, un producteur de gaz. Producteur privé, répondait encore hier soir le géant pétrolier français. Pas de raison de se désengager. Le discours a radicalement changé dans la matinée. Total n'apportera donc plus de capital à de nouveaux projets en Russie. Communiqué envoyé à toutes les rédactions une heure à peine après l'intervention de Bruno Le Maire. Une réunion est même prévue entre Patrick Pouyanné, le patron de Total Energy, et le ministre. Nous pourrons prendre des décisions dans les jours qui viennent, a-t-il ajouté. Une pression politique qui s'est traduite outre-Manche par le désengagement complet de BP du capital d'un géant public russe du pétrole.
Pierre Herbulot du service économie de RTL. Autre conséquence de cette guerre, les prix de l'essence qui continuent de flamber, plus à 3,64 centimes pour le litre de gazole en moins d'une semaine. Même chose pour le sans-plomb 95 à 1,79€ désormais en moyenne. Et vos courses aussi devraient bientôt vous coûter plus cher. Les négociations entre la grande distribution et les industriels s'achèvent ce soir à minuit. Jean-Philippe André est le président de l'ANIA, l'Association des industries agroalimentaires.
Avec les derniers événements sur la partie est de l'Europe, oui, il y aura des hausses. Mais on peut imaginer qu'on soit aux alentours de 4-5% d'inflation. Nous avons, nous, des demandes de hausse légitimes de l'ordre de 6 à 7. La guerre de prix que se livrent les distributeurs fera sans doute que ça sera un peu amorti, mais il faut augmenter ses prix simplement parce que c'est la réalité économique. Nous, notre problème, c'est de savoir est-ce qu'on arrive à traduire les hausses de coûts qu'on constate à la fois sur les matières premières, sur les emballages, sur l'énergie, sur le transport. Et c'est vraiment un gros, gros sujet d'anxiété à quelques heures de la fin des négociations.
Et le président de l'Association des industries agroalimentaires au micro RTL de Virginie Garin. Côté militaire, la France annonce l'envoi de plus de 500 hommes dans l'Est de l'Europe. Une mission stratégique, nous dit-on, dans le cadre de l'OTAN. 120 chasseurs alpins sont sur le point de décoller de la base d'Istres où l'on vous retrouve, Étienne Baudu, direction la Roumanie.
Oui, direction la base de l'OTAN de Constanța, au bord de la mer Noire, dans un A330 de l'armée de l'air. Alors bien sûr, hein, avant d'embarquer, ce sont les derniers coups de fil à la famille.
Je téléphonais à ma conjointe là pour lui dire que j'allais décoller et lui donner un dernier bisou avant de partir. C'était le dernier coup de fil.
Alors le sergent Hugo a 22 ans, c'est déjà un chasseur alpin expérimenté. Il était encore l'été dernier au Mali, mais c'est vrai, dans sa tenue de camouflage hivernale verte et blanche, au-delà des températures, le contexte est très différent, mais il ne gamberge pas, dit-il.
C'est un déploiement qui est tout nouveau pour nous. On a été déployé au Sahel face à un ennemi qui n'est pas du tout le même qu'on va pouvoir rencontrer là dans les pays de l'Est. Maintenant, on s'attend à toutes les possibilités, et puis on suit les ordres et on fait en sorte que ça se passe le mieux et le plus rapidement possible. On va faire le boulot.
Alors 120 militaires partent aujourd'hui, 400 autres vont suivre. Ils partent avec leur matériel et leurs véhicules, 170 en tout, dont des chars sur roues. 4 avions cargo Antonov affrétés par une compagnie ukrainienne vont effectuer 22 rotations cette semaine, 15 la suivante. C'est une des plus importantes opérations de déploiement par voie aérienne effectuée par l'armée française.
Étienne Baudu sur la base d'Istres pour RTL. Dans le reste de l'actualité, 3 infos à retenir. Du nouveau d'abord pour les couples divorcés, la CAF. La caisse d'allocation familiale va désormais systématiquement jouer les intermédiaires entre parents pour le versement des pensions alimentaires. Le dispositif qui était mis en place depuis plusieurs mois pour lutter contre les impayés devient systématique à partir d'aujourd'hui. Les ventes de voitures neuves, elles continuent de reculer, moins 13,1% au mois de février. Le marché automobile français toujours freiné par la pénurie de puces électroniques. Et puis en football, le petit poucet de la Coupe de France va tenter ce soir de décrocher sa place pour la finale. Versailles affronte Nice. Maël Durand de Gévigné est le capitaine de cette équipe versaillaise. C'est le seul joueur formé au club.
On a toutes nos chances, c'est un match de football, il y a 11 hommes contre 11 hommes. Après, forcément, ils sont chez eux, ils sont sur leur pelouse, ils sont très forts en Ligue 1, ils ont des internationaux, donc forcément, les chances vont être de leur côté. Après, nous, justement, on n'a rien à perdre. Je suis un mec du 78, donc c'est une fierté de représenter ce club. J'ai été petit, j'ai regardé des épopées de Coupe de France, j'ai même été ramasseur de balles contre Dijon ou des matchs comme ça. Donc ouais, c'est énorme de pouvoir représenter le club et le département et même toute la région. C'est très excitant de jouer contre eux, ouais.
Le capitaine du FC Versailles, au micro RTL de Nicolas Georgerot.
Maël Durand de Gévigné, capitaine du FC Versailles.
22
ans seulement. Bien évidemment. Nos deux sujets, le premier dans une seconde. Nous serons avec le porte-parole du chef d'état-major des armées françaises, le colonel Pascal Yanni. À tout de suite.
Amandine Bégaud, Pascal Pro.
RTL Midi, édition spéciale. RTL Midi, édition spéciale.
Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Les avions vont rejoindre l'espace aérien de l'OTAN, la Pologne en ce qui concerne la mission d'aujourd'hui. Ils sont en l'air pour pouvoir caractériser, identifier un aéronef qui serait inconnu dans le meilleur des cas ou qui serait plutôt offensif et qui rentrerait dans le territoire de l'OTAN alors qu'il n'était pas autorisé. Ensuite, il y a tout un tas de procédures qui sont possibles en fonction de la réaction de cet avion pour forcer cet avion soit à faire demi-tour, soit à se poser.
Le colonel Jean-Michel Herpin dirige la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan. C'est de là que plusieurs rafales français doivent partir direction la Pologne. Ce matin, on l'évoquait à l'instant dans le journal, plusieurs centaines de soldats ont quitté Istres pour la Roumanie. Alors concrètement, que vont faire ces forces françaises sur place? La guerre, du soutien, de la surveillance. C'est le premier débat de RTL Midi. Bonjour colonel Pascal Yanni.
Bonjour.
Et vous êtes le porte-parole du chef d'état-major des armées. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. On est d'accord d'abord pour que nos auditeurs comprennent bien, ces militaires français qui partent, que ce soit d'Istres ou de Mont-de-Marsan, ne partent pas faire la guerre à proprement parler.
Non, ils ne parlent pas faire la guerre à proprement parler, ils ne parlent pas faire la guerre du tout. Les déploiements qui sont actuellement en cours ou déjà effectifs s'inscrivent dans le cadre des mesures de réassurance et de renforcement de la posture de l'OTAN sur son flanc oriental.
C'était des dispositifs qui étaient prévus mais qui ont été accélérés ces derniers jours, c'est ça ?
Alors en fait, on a des dispositifs permanents, notamment en Estonie, où la France est présente déjà depuis un an dans le cadre de mesures de réassurance, en fournissant un détachement d'environ 300 hommes. Et certains dispositifs ont été déclenchés à la suite du déclenchement du conflit en Ukraine le 24 février dernier. Et notamment, c'est le cas du bataillon qui se déploie actuellement en Roumanie, qui fait partie de la force rapide, de réaction rapide de l'OTAN. C'est donc un bataillon français qui part en tête des forces de l'OTAN et qui se déploie en Roumanie et qui préfigure sans doute un dispositif similaire à ce que nous avons dans les pays baltes, c'est-à-dire un dispositif permanent de présence et de réassurance.
500 militaires français, a priori, en Roumanie, dans ce cadre du renforcement des troupes de l'OTAN, comme vous le précisez à l'instant. Emmanuel Macron a écrit un message hier soir aux armées françaises via l'Élysée. Il a insisté notamment sur la détermination des militaires et un message personnel, d'une certaine manière, qui leur a été adressé. Comment vous avez vécu cette lettre ?
C'est pour nous, c'est un signe de confiance, c'est un signe d'attention et c'est bien sûr un signe d'intérêt sur tout ce qui concerne l'engagement des armées sur ce flanc oriental de l'OTAN dans ce contexte très particulier.
Avec une phrase particulière, leur grande vigilance, Emmanuel Macron dit qu'il peut compter sur la grande vigilance des militaires et leur retenue nécessaire lors des possibles interférences dans ce conflit.
Oui, parce que ce qui concerne d'une manière générale l'emploi de la force et l'engagement des armées peut-être se résumer en trois mots qui sont détermination, crédibilité et surtout maîtrise dans l'emploi de la force.
Colonel, c'est assez rare que le président de la République adresse ce genre de message à l'armée, c'est pas anodin.
Le président de la République adresse des messages assez régulièrement aux armées, mais je pense que c'est surtout dû au contexte particulier que nous vivons actuellement.
Alors, la France a, comme beaucoup d'autres pays d'ailleurs, annoncé l'envoi d'armes en Ukraine. Est-ce qu'on sait combien d'armes, aucun chiffre n'a pour l'instant été donné par l'Élysée ?
Je reprendrai les déclarations qui ont été faites, c'est-à-dire que nous avons fourni des équipements de protection, des équipements défensifs à l'armée ukrainienne, et je ne rentrerai pas dans le détail de ce qui a été fourni exactement.
Et est-ce qu'on sait comment elles vont être acheminées, ces armes ?
C'est pareil, vous comprendrez aisément que pour des raisons de sécurité opérationnelle, je ne vais pas rentrer dans le détail de la façon dont tous ces équipements sont remis aux armées ukrainiennes.
Mais c'est les militaires français qui se chargent de les remettre, si... Je veux simplifier les choses ou ça se passe pas du tout comme ça sans rentrer dans le détail.
Disons que les armées françaises prennent leur part dans le processus de transfert de ces équipements.
Je pense que chacun comprend, et nos auditeurs évidemment, la réserve dont vous faites preuve et évidemment la position qui est la vôtre, qui vous interdit de communiquer ces informations qui relèvent sans doute du secret défense. Alors, il y a des Français qui n'appartiennent pas du tout à l'armée et qui veulent s'engager et aller combattre en Ukraine. Est-ce que vous les encouragez ?
C'est un choix individuel, je n'ai aucun commentaire à faire sur ce type de décision.
Ils n'auront pas de statut particulier ?
Je pense qu'ils n'auront pas de statut particulier, en tout cas ils n'auront pas de lien avec les armées.
Alors on évoquait tout à l'heure la situation sur place, ces bombardements qui s'intensifient, les envoyés spéciaux d'RTL nous parlaient de tous ces bombardements, on a eu pas mal de témoignages aussi. J'imagine que vous aussi vous surveillez ces images et notamment ce convoi de véhicules russes qui s'est endormi désormais sur plus de 60 km autour de Kiev. Qu'est-ce que ça signifie et là j'en appelle d'un point de vue purement stratégique, militaire, ça veut dire quoi? Que les Russes sont prêts à donner l'assaut sur Kiev?
Je pense que nous assistons un peu à, pas à un cas d'école, mais en tout cas à l'application de la doctrine telle que nous l'avons apprise il y a quelques dizaines d'années du temps du bloc soviétique et qui est toujours mise en œuvre par les armées russes. C'est-à-dire que nous assistons sans doute à l'engagement du deuxième échelon des armées russes, et ce deuxième échelon est notamment constitué par tout ce qu'on appelle les appuis, c'est-à-dire des pièces d'artillerie, des moyens assez lourds, et je pense qu'effectivement on va assister à l'engagement du deuxième échelon sur Kiev.
Donc la prochaine étape,
et que les combats risquent d'être assez difficiles.
C'est ça, la prochaine étape.
Je pense que l'objectif, clairement affiché par les forces russes, c'est de s'emparer de Kiev et de prendre le contrôle de Kiev. Ce qui symboliquement et politiquement serait assez fort comme signal et qui marquerait sans doute l'effondrement des structures ukrainiennes telles qu'on les connaît aujourd'hui.
Et c'est ça, on les surveille, enfin ce qu'on voit, on le surveille par image satellite. On pourrait pas, c'est très naïf hein, la question que je vous pose, mais on pourrait pas les bombarder avant qu'ils n'entrent à Kiev?
Alors en fait, ce qu'on constate depuis le début de ce conflit, c'est que les forces russes ont cherché avant tout à conquérir et à conserver la maîtrise du ciel, c'est-à-dire la supériorité aérienne. Si vous vous souvenez, lors des premiers jours, les forces russes ont essentiellement frappé des centres de défense aérienne, ont tenté de neutraliser l'armée de l'air ukrainienne pour justement pouvoir engager au sol leurs troupes, en ayant une parfaite maîtrise du ciel et en n'étant pas soumis à des frappes aériennes.
Merci Pascal Yanni. Je rappelle que vous êtes le colonel Pascal Yanni, chef d'état-major, que vous êtes le porte-parole du chef d'état-major des armées. Merci pour cette intervention et bon courage à vous et à vos hommes dans cette mission périlleuse. Il est 12h51, la pause.
Amandine Bégaud, Pascal Pro.
RTL Midi, édition spéciale. RTL Midi, édition spéciale.
Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Macron, ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'est pas mal, franchement. De mettre les choses le mieux possible du côté de la paix. Aujourd'hui, c'est pas un mec comme Mélenchon ou Zemmour qui soutient encore ces pays-là, qui va nous sortir de cette galère.
Zemmour a retourné sa veste quand même, hein, vis-à-vis de Poutine. Voilà quoi. Les gens qui retournent leur veste sans arrêt.
Fabrice avait prévu de voter Valérie Pécresse le 10 avril prochain, Françoise, Éric Zemmour, mais la crise en Ukraine a changé la donne. Pour ces deux électeurs croisés hier au Salon de l'agriculture, ce sera finalement Emmanuel Macron. Alors à 40 jours de la présidentielle, le scrutin est-il déjà joué? La campagne mornée, c'est le deuxième débat de RTL Midi. Bonjour Aurélie Herbeman.
Bonjour.
Journaliste au service politique de RTL. On est à 40 jours pile de ce premier tour. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les différents candidats ont bien du mal à se faire entendre.
Eh bien oui, mais on est dans une situation inédite. Jamais on a eu un contexte international aussi tendu pendant une campagne présidentielle. Et c'est vrai que pour les candidats de l'opposition, c'est compliqué de se positionner. Chacun essaye de faire entendre sa voix, a un petit peu bouleversé son agenda de campagne, refait des réunions. Valérie Pécresse, par exemple, hier soir, a organisé son contre-conseil, comité stratégique de défense, pour montrer qu'elle pourrait être chef de guerre. Mais quand vous voyez les images, c'est avec des anciens ministres de la Défense et des Affaires étrangères qui sont plus au pouvoir depuis 10 ans, pendant qu'Emmanuel Macron, lui, il est toute la journée au téléphone avec les présidents indiens, hier 1h30 avec Vladimir Poutine. C'est très inégal entre l'opposition et l'exécutif. Et puis vous avez un autre cas de figure, ce sont les candidats dont on ressort tous les écrits, toutes les interviews qui étaient plutôt favorables à Vladimir Poutine. Donc là, je pense à Éric Zemmour, à Marine Le Pen, à Jean-Luc Mélenchon, et qui doivent se débattre pour décoller cette image de pro-Poutine avec des gros guillemets qui est très compliquée à 40 jours de la présidentielle, sachant qu'à l'intérieur, chacun essaye de se bagarrer là-dessus. Vous avez Anne Hidalgo et Yannick Jadot qui tirent à boulet rouge contre Jean-Luc Mélenchon justement pour ses positions pro-Poutine. Et puis à droite, vous avez Valérie Pécresse qui espère profiter entre guillemets de cette situation pour affaiblir Éric Zemmour et Marine Le Pen, alors qu'elle, dans les sondages, elle est quatrième, voire parfois cinquième.
Je vous ai écouté ce matin et vous disiez à juste titre sans doute que si le débat démocratique n'a pas lieu, c'est pas forcément une bonne chose, y compris pour Emmanuel Macron, et certains de ses soutiens, certains des barons de la Macronie le disent.
Bien sûr, parce que c'est vrai que la situation s'impose à nous et nous dépasse un peu tous, dépasse les candidats, dépasse les Français, il y a de l'inquiétude, mais en même temps, ça n'élimine pas les problèmes qui auraient dû être au cœur de cette campagne présidentielle,
les pouvoir d'achat par exemple. Et les différences.
Et c'est vrai que le débat risque d'être escamoté, mais effectivement, c'est ce que je racontais ce matin, même dans la majorité, ils se disent il faudra quand même qu'à un moment il y ait le débat, parce que, mine de rien, choisir le président de la République, c'est pour 5 ans, là la menace est imminente, risque probablement de durer pendant plusieurs mois,
mais
effectivement c'est l'avenir de la France pour 68 millions de Français pour les 5 ans qui viennent qui se jouent aussi.
Mais que faire à ce moment-là pour Emmanuel Macron?
C'est très compliqué, c'est très très compliqué de voir, parce que là effectivement il est très très engagé.
En tête de tous les sondages, il progresse alors que les autres baissent.
Mais ça, il y a un côté, on voit toujours, là, ce qu'on entendait avec les témoignages au Salon de l'agriculture, on se replie derrière la figure du chef, parce qu'on n'en a pas conscience à toutes les présidentielles, mais choisir le président de la République, c'est aussi choisir le chef des armées. Et on a passé plein de présidentielles sans l'avoir en tête, là, pour cette fois, en 2022, tout le monde va l'avoir en tête que c'est pas galvaudé de choisir le chef des armées. Et donc Emmanuel Macron, évidemment, était déjà en tête dans les sondages, et on voit que son avance, il grappille encore quelques points parce que c'est lui qui est en poste. Il y a un côté rassurant dans les périodes de crise. Souvenez-vous, après les attentats de 2015, François Hollande, qui était déjà très impopulaire avant, avait repris dans les enquêtes de popularité quelques points. Ça n'avait pas duré, ça n'est pas durable, et ça revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, ça n'est pas forcément durable de se replier derrière le chef.
Ce qui est ennuyeux, c'est que certains, et notamment à droite, ont le sentiment que la dernière campagne présidentielle avait été escamotée, que François Fillon avait été percuté par une affaire, donc le débat d'une certaine manière n'avait pas pu aller au bout, et cinq ans plus tard, une nouvelle fois, pour d'autres raisons, le débat n'a pas lieu. Donc c'est quand même compliqué, parce que ce qui ne se règle pas dans les urnes peut se régler ailleurs.
Mais bien sûr, et c'est pour ça qu'en Macronie, ils en sont conscients, et qu'il faudra
ça
quand même qu'à un moment,
législatives.
Qu'à un moment, il faudra que le débat ait lieu. Alors débat en fonction de ce que... Alors débat, pas des débats entre les candidats, parce que déjà avant cette crise, Emmanuel Macron n'avait pas l'intention de se retrouver seul face à 10 candidats qui allaient pilonner son bilan. Là, autant vous dire que c'est encore moins à l'ordre du jour. Mais il faudra même que le président présente son projet pour les 5 prochaines années.
Qui dit qu'il est officiellement candidat, il faut le dire.
Qui dit qu'il est officiellement candidat.
On sait comment il va se présenter.
Alors c'est très compliqué parce qu'ils avaient préparé des scénarios, un déplacement avec un bain de foule, ou une grande interview à la presse quotidienne. Là, effectivement, il va falloir revoir ça de manière plus sobre et solennelle. Peut-être pas la dépêche AFP, mais certains disent pourquoi pas faire un 20h, c'est classique. Mais il va falloir qu'il trouve un créneau quand même pour le faire.
Il peut venir s'il veut vendredi midi. On peut l'inviter vendredi,
bien sûr. On peut passer le message.
Avec les auditeurs, moi je pense que ce serait intéressant.
Belle proposition.
Mais pour l'instant, il ne va pas rentrer, je pense, dans les détails de son projet. Certains le disent, voilà, ça ne va pas du tout.
Non, mais ça va être au minimum, très clairement. Ça va être vraiment.
Voilà, je suis candidat, et puis pour le projet, on verra dans les semaines qui viennent.
Avant vendredi 18h, cette déclaration officielle de candidature. Et puis on rappelle que vous, électeurs, vous n'avez plus que quelques jours pour vous inscrire sur les listes électorales. C'est jusqu'à demain pour les inscriptions en ligne et jusqu'à vendredi en mairie.
Merci Aurélie Herbemont, et moi je vous écoute tous les matins.
6h50.
Un air de campagne.
Exactement, et c'est toujours... Il y a beaucoup d'infos et c'est toujours extrêmement intéressant de vous écouter.
Bien, merci, à demain.
Il est 12, exactement. Demain, il est 12, parce que nous levons tôt. L'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt.
Exactement.
Vous êtes levé à quelle heure, monsieur Baudin, ce matin?
Il se lève encore plus tôt que nous,
bah oui.
Oui,
à 6h, 6h50, 6h.
12h59, à tout de suite.
RTL Midi, édition spéciale.
Amandine Bégaud, Pascal Praud.